Lui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous, il est 17h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Ghana, funérailles nationales de Kofi Annan, un hommage officiel lui a été rendu à Accra en présence de personnalités venues du monde entier. Au Mali, le gouvernement confirme la mort d'au moins 20 personnes dans un accident de la circulation. Dans nos dossiers du jour, nous reviendrons sur la Mauritanie et la réalité de l'esclavage.
Le gouvernement nie que l'esclavage existe. Le gouvernement soutient et défend partout qu'il n'y a que des séquelles.
Aux États-Unis, l'ouragan Florence approche des côtes de la Caroline du Nord. Il a été rétrogradé en catégorie 2. Dans la Minute Éco, la Chine veut investir dans Asky Airlines, la compagnie aérienne panafricaine. Et soupçons de corruption dans le football rwandais dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Familles et dirigeants du monde entier ont rendu un dernier hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, lors des funérailles nationales qui se sont déroulées au Ghana, son pays natal. Le point avec Bagassi Koura.
Le cercueil de Kofi Annan recouvert du drapeau du Ghana était posé devant des centaines de personnes avec au premier rang sa famille proche, tous habillés de noir. Trois anciens présidents ghanéens ainsi que des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient également présents. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et ami personnel, a rappelé que, je cite, Kofi Annan était les Nations Unies et les Nations Unies c'était lui. Le président Nana Akufo-Addo l'a désigné comme une icône des temps modernes. Pendant plus de trois heures, les discours ont alterné avec des chants religieux. Seule la famille et les plus proches se sont rendus au cimetière militaire d'Accra où est enterré Annan après un deuil national de trois jours. Décédé le 10 août à l'âge de 80 ans en Suisse, après une brève maladie, Kofi Annan avait consacré quatre décennies de sa vie aux Nations Unies. Il avait reçu conjointement avec l'ONU le prix Nobel de la paix peu après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Au Mali, 20 morts, 63 rescapés sauvés par les secours. C'est le bilan d'un accident de car dans la région de Ségou. Le véhicule s'est renversé dans le fleuve Niger. Les recherches se poursuivent. Selon les premiers éléments de l'enquête, une défaillance technique serait à l'origine de ce dramatique accident. Kassim Traoré.
Ils étaient 80 personnes qui revenaient du marché hebdomadaire de Koué avant de traverser le fleuve. Le système de freinage de leur car a lâché et le véhicule s'est renversé dans le fleuve.
Juste en face de Matina, à la fin de la route latéritique, là où le bac devrait prendre le car, et c'est à ce niveau-là que le frein a lâché vers le lundi vers 21h. Et c'est ce qui a amené que le véhicule est descendu dans l'eau avec tous ses passagers.
Malgré les efforts des habitants, il fallait attendre la grille mobile pour faire sortir le maximum de corps de l'eau.
Hier, quand on a fait venir au puits de Ségou pour enlever le quart de l'eau, c'est à partir de ça qu'on a pu, hier, on a pu faire sortir 17 corps. Lundi soir, à 21h, lorsque le quart est descendu, on a pu enlever deux corps. Le lendemain, mardi, on a enlevé un corps soir. Et hier, on a fait sortir 17 corps.
Cet accident est l'une des conséquences du transport mixte au Mali, car en plus des personnes, il y avait des animaux et de la marchandise. Compte tenu de la situation géographique et dangereuse de la zone, aucun ministre n'est encore arrivé sur les lieux. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et en Guinée, au moins 4 personnes ont été tuées ces derniers jours lors d'éboulements dans 2 mines artisanales. Dans ce pays, des milliers de personnes risquent leur vie en exploitant clandestinement le sous-sol. Nani Talani.
Selon des sources officielles et des témoins, les accidents se sont produits dimanche et mercredi dans des mines de Kitinya, près de Sigiri, dans l'extrême nord-est du pays. Les creuseurs artisanaux, qui s'y comptent par milliers, viennent notamment de la Guinée, mais aussi du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Travaillant généralement pour des salaires de misère et sans la moindre sécurité, ils ne disposent habituellement que d'un équipement rudimentaire. Ils sont estimés à plus de 20 000 rien que dans la région de Sigiri, selon les autorités. Le sous-préfet de Kitinya, Aliou Guissé, a pourtant lancé des appels pour que les orpailleurs évitent de se rendre dans des mines en cette période dite d'hivernage, caractérisée par de fortes pluies.
Et au Bénin, plus d'un millier de travailleurs sont descendus dans la rue à l'appel de deux organisations syndicales. Elles dénoncent la limitation du droit de grève à 10 jours par an, voté la semaine dernière par le Parlement pour tous les personnels civils de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que les travailleurs des établissements publics, semi-publics ou privés. Les syndicats considèrent cette nouvelle loi comme une oppression de leurs droits, décidée par le gouvernement de Patrice Talon, qui a la majorité à l'Assemblée. Au Cameroun, les autorités veulent réinstaller les fonctionnaires qui ont abandonné leur poste pour cause d'insécurité dans les régions anglophones en conflit. Dans une note présidentielle, le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, demande au ministère de l'administration territoriale de procéder à la réinstallation d'une douzaine de sous-préfets et autres fonctionnaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis la rentrée scolaire depuis septembre, émaillée en zone anglophone de violence et à l'approche du scrutin présidentiel du 7 octobre, ces deux régions connaissent un fort regain de tension. Une rencontre à Luanda entre les ministres des Affaires étrangères de la Belgique et de l'Angola suscite la colère de Kinshasa. Lors de cette rencontre, ils ont réitéré l'importance d'un processus véritablement inclusif qui puisse aboutir à des élections crédibles, libres et transparentes le 23 décembre 2018 en RDC. Fin de citation. Le ministère congolais des Affaires étrangères a réagi dans un communiqué en se disant surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral, en ajoutant que le gouvernement réitère fermement son refus de toute ingérence en la matière, tant de la part des pays voisins que des autres partenaires bilatéraux. En République du Congo, l'opposant Pauline Makaya, emprisonnée à Brazzaville depuis fin 2015, a été condamnée à un an de prison, mais a été libérée pour avoir déjà purgé sa peine. Président de l'Union pour le Congo, il avait été accusé par les autorités de Brazzaville d'avoir organisé en 2015 une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel, ayant permis au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se présenter à nouveau à la présidentielle de mars 2016 qu'il a remportée. Au Zimbabwe, l'épidémie de choléra s'est propagée de la capitale Harare à plusieurs régions du pays et a fait 24 morts depuis la semaine dernière. C'est le nouveau bilan officiel qui fait état également d'une pénurie de médicaments. Les autorités ont décrété un état d'urgence sanitaire. Les rassemblements publics dans la capitale sont interdits. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe. L'épidémie avait forcé de nombreux hôpitaux publics à fermer, faute de médicaments et de membres du personnel partis à l'étranger. Reconnaissance française historique concernant la guerre d'Algérie. Le président Emmanuel Macron a admis la responsabilité de l'État français de la mort sous la torture du militant communiste Maurice Audin. C'était il y a 61 ans. Il importe que cette histoire soit connue, qu'elle soit regardée avec courage et lucidité. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtris tant en Algérie qu'en France, a dit le président français Emmanuel Macron.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, les bandes extérieures de l'ouragan Florence frappent la côte de la Caroline du Nord alors que la tempête se rapproche de l'est des États-Unis. Rétrogradée en catégorie 2 avec des vents de 165 km à l'heure, il reste toutefois extrêmement dangereux car il draine des puits diluviennes avec un risque d'inondation de grande ampleur. Nathalie Barge.
Une montée des eaux et des chutes de pluie potentiellement mortelles sont attendues, a prévenu le Centre national des ouragans. Florence se déplace à 20 km à l'heure, indiquent les prévisionnistes, estimant que la tempête avancera lentement le long de la côte vendredi et samedi. Ils affirment par ailleurs que l'onde de tempête pourrait entraîner l'inondation de certaines zones avec jusqu'à 4 mètres d'eau à l'intérieur des terres. L'état d'urgence est déclaré en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie et Géorgie. Environ 10 millions de personnes vivent dans des zones soumises à des alertes et près de 2 millions ont été sommés de se mettre à l'abri loin du littoral. Des destructions généralisées sont à redouter. 3 millions d'usagers risquent d'être privés d'électricité et les réparations pourraient durer plusieurs semaines. Nous sommes totalement prêts pour l'ouragan Florence, soyez prudents, a tweeté ce matin le président Donald Trump.
Et le président américain Donald Trump a nié le bilan officiel de près de 3000 morts à Porto Rico, territoire américain, lié à l'ouragan Maria il y a un an. Il estime que les démocrates ont gonflé le chiffre pour lui nuire. 3000 personnes ne sont pas mortes dans les deux ouragans ayant frappé Porto Rico. Lorsque j'ai quitté l'île après que la tempête a frappé, il y avait entre 6 et 18 morts, a-t-il tweeté. Fin août, le gouverneur de l'île, Ricardo Rossello, avait indiqué avoir donné comme instruction d'actualiser le bilan officiel à 2975 morts. Le bilan officiel était auparavant de 64 morts. Et aux États-Unis, le pape accepte la démission d'un évêque américain de Wheeling, Charleston, Michael Bransfield. Il a été accusé de harcèlement sexuel sur des adultes selon un communiqué de son diocèse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et l'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Fonds de développement Chine-Afrique veut introduire de nouveaux partenariats stratégiques dans Sky Airlines, la compagnie panafricaine basée à Lomé. Parallèlement au secteur aéronautique, ce fonds a également l'intention de se positionner sur le projet d'extension du port de Lomé et aussi investir dans l'infrastructure, l'énergie hydroélectrique, l'exploitation des ressources et le projet de création d'un parc industriel au Togo. L'ABAD a octroyé au Tchad 24,7 millions de dollars pour la mise en place de plusieurs infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Il est prévu la construction de 48 châteaux d'eau, 135 ouvrages d'assainissement collectif et 7 centres multifonctionnels pour les femmes. Actuellement, le taux d'accès à l'eau potable n'est que de 55% environ. Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural couvrira 5 régions du pays sur 3 ans. L'économie mauricienne envisage une augmentation de sa croissance à 4% en 2019. La plus grande banque du pays, la MCB, se fonde sur les investissements dans les infrastructures, notamment les chemins de fer et les routes, et le secteur du bâtiment. Port-Louis va investir 453 millions de dollars dans la construction de 3000 logements sociaux, de nouveaux bâtiments pour la police, le nouveau Parlement et la Cour suprême. Pour l'année prochaine, ce financement augmentera de 15%.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Ah bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption dans le football rwandais.
Ah oui, la polémique qui enfle suite à l'ouverture d'une enquête concernant deux dirigeants de la Fédération rwandaise de football. L'arbitre namibien Jackson Pavaza affirme avoir été approché pour manipuler le résultat du match entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette rencontre s'était soldée par la victoire des éléphants de buts à 1. Ces allégations de corruption font actuellement l'objet d'une enquête de la part du Rwanda Investigation Bureau. Le secrétaire général de la Fédération, Uwayezu François Régis, est le responsable des compétitions. Eric Rouamiriza aurait été interpellé.
Nicolas, la FIFA veut du changement dans le marché des transferts.
Ah oui, la FIFA qui prévoit de limiter entre 6 et 8 le nombre de joueurs qu'un club peut prêter chaque saison. Cette mesure vise à garantir l'équité sportive entre les clubs et à endiguer un phénomène qui voyait des clubs, notamment anglais et italiens, engager un grand nombre de joueurs et à les prêter aussitôt. Autre proposition de la FIFA, la création d'une chambre de compensation gérée par une banque chargée de collecter et de reverser aux clubs formateurs les indemnités de formation prélevées sur chaque transfert.
Et du cyclisme en Côte d'Ivoire.
L'Ivoirien Issiaka Cissé, décidément, est arrivé encore en tête de la cinquième étape du Tour de Côte d'Ivoire ce jeudi à Bondoukou. Comme lors de la quatrième étape, il a devancé le Burkinabé Abdulaziz Nikema. Le Ghanéen Anthony Boakai complète le podium. C'est la troisième victoire de suite pour Cissé qui conserve ses 2 minutes 31 secondes d'avance sur le Camerounais Clovis Kamzongo Abesolo au classement général.
Nicolas, qui organisera les JO d'hiver 2022 ?
Après Pékin en 2022, quelle ville va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2026 ? La réponse ne sera connue que dans un an, mais en tout cas, la liste des prétendants s'est réduite. On compte comme candidat à l'organisation de ces JO d'hiver Calgary au Canada, Erzurum en Turquie, Sapporo au Japon, Stockholm et enfin un trio italien, Milan, Turin, Cortina d'Ampezzo.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raïssa Gérondin pour vous présenter les dossiers du jour. En Mauritanie, l'esclavage est officiellement aboli depuis 1980, mais des cas liés au sujet sont souvent traités par les tribunaux grâce à l'appui d'ONG anti-esclavage. Des abolitionnistes comme Bira Moulda sont souvent emprisonnés pour leur militantisme et l'un de ces militants, Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage en Mauritanie, séjourne ici aux États-Unis pour rencontrer ses partenaires et des organisations des droits humains. La communauté internationale s'intéresse-t-elle vraiment à l'esclavage en Mauritanie? Abdourahmane Dia a posé la question à Boubacar Messaoud.
Il est très clair pour nous, en tout cas, que si la communauté internationale ne s'y intéresserait pas, tous les gouvernements mauritaniens qui se sont succédés n'auraient jamais accepté de faire les concessions qui ne sont encore que très modestes. Qu'ils ont déjà fait.
Vous dites que les concessions du gouvernement mauritanien sont modestes, mais le gouvernement dit que l'esclavage est aboli. Et quelle est un peu la situation?
Oui, le gouvernement nie que l'esclavage existe. Le gouvernement soutient et défend partout qu'il n'y a que des séquelles, alors que nous présentons périodiquement des victimes d'esclavage que nous assistons au niveau des tribunaux contre leurs maîtres, les gens qui les exploitaient, les réclamant le retour de leurs enfants ou de leurs mères ou de leurs descendants qui sont restés encore chez les maîtres dans la campagne. C'est dur depuis que l'abolition a été déclarée en 1981. Et je me demande comment on peut déclarer en 1981 que l'esclavage est aboli sur toute l'étendue du territoire et en même temps dire qu'il n'existe pas.
Donc, dans les textes, l'esclavage n'existe plus, mais dans la pratique, c'est autre chose.
Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il est certes que l'esclavage n'est pas comme il était il y a 100 ans ou il y a 50 ans avant l'indépendance. Mais il ne peut pas continuer à disparaître, à s'effacer au rythme du temps, tout simplement, parce que c'est très long. Actuellement, il en reste des esclaves. Nous continuons à déplorer qu'il n'y ait pas des mesures radicales permettant à tout un chacun de savoir que l'esclavage est totalement proscrit.
Quand vous parlez de mesures radicales, vous pensez à des peines sévères contre les auteurs?
Je parle des peines sévères d'abord, qu'il faut exécuter aussi. Je parle des sommes qu'on devrait exiger pour la réparation. Donc, je parle des réparations que les maîtres d'esclaves devraient affronter, devraient être obligés de réparer. Parce que nous avons des esclaves qui n'ont absolument rien, qui sont totalement démunis, surtout quand ce sont des esclaves qui étaient des bergers, qui étaient dans la nature avec des animaux et leurs maîtres. Ils avaient juste un endroit pour dormir. Et quand ils viennent dans la ville, ils s'installent dans les bidonvilles et ils n'ont pratiquement pas grand-chose.
C'était Boubacar Messaoud, président de SOS Esclavage. Au Burundi, le principal opposant et ex-rebelle Hutu, Agathon Rwasa, a créé un nouveau parti politique dénommé Front National pour la Liberté, Amizero Yabarundi, en français l'espoir des Burundais. Alors le but de ce parti, selon ses fondateurs, est d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020. Yakuba Ouedraogo a joint Agathon Rwasa, président du nouveau parti.
C'est notre droit, puisque la loi burundaise reconnaît à tout citoyen le droit de pouvoir créer un parti politique. Mais aussi et surtout, il y a une grande contrainte de par comment la constitution est bâtie. Il n'y a pas vraiment de l'espace pour les indépendants. Et nous pensons que nous ne pouvons pas laisser le champ libre au seul parti au pouvoir. Il faut qu'on soit de la compétition en 2020.
On sait que vous étiez constitué en indépendant, vous avez évoqué une contrainte constitutionnelle. Dites-nous, quelle est cette contrainte-là?
Il y a une contrainte de par la formulation de la loi burundaise, spécifiquement la constitution qui, dans son article 81, reconnaît aux partis politiques le droit de se coaliser lors des élections et refuse catégoriquement ce droit aux indépendants dans l'article 86. Et pire encore, avec l'article 174 dans son deuxième alinéa. qui demande aux indépendants de totaliser au minimum 40% des voix exprimées dans une circonscription, alors que le premier alinéa de cet article demande uniquement 2% pour les partis et coalitions de partis pour pouvoir avoir un siège au Parlement. Vous comprenez qu'il y a du deux poids deux mesures et que vraiment l'espace est clos pour ce qui est des indépendants. Alors nous pensons que la meilleure façon de contourner ce blocage-là, c'est de se constituer un parti politique.
Vous aviez juste créé ce parti politique-là pour vous conformer à la Constitution?
Pas nécessairement, c'est beaucoup plus pour pouvoir avoir le droit de participer aux prochaines échéances électorales.
À quelle échéance pensez-vous?
À l'heure actuelle, c'est 2020.
Vous serez candidat en 2020? Pour la présidentielle?
Je ne sais pas. Ça serait aller trop vite.
Vous avez dénommé le parti Front National pour la Liberté à Misero Yabarundi. Pourquoi cette appellation?
Tout d'abord, nous pensons que les Burundais ont besoin de la liberté. Ils ont droit à une bonne gouvernance, à une meilleure gouvernance. Les Burundais ont besoin du changement. Et nous jugeons qu'il faut qu'il y ait un nouvel élan dans la politique burundaise.
Quel pourrait être cet nouvel élan-là?
Pour nous, nous pensons que nous devons y aller avec l'idée de venir au service de la population et de pouvoir répondre aux aspirations des uns et des autres.
Qu'est-ce que votre parti offre politiquement au Burundais?
On offre au Burundais d'abord la chance de pouvoir opérer un choix lors des élections. On a des formations politiques pour la plupart qui sont juste là pour les intérêts sectaires. Maintenant, il faut quand même que les gens puissent aller dans quelque chose qui puisse réellement être à l'écoute des citoyens et qui puisse chercher des solutions aux problèmes de l'heure.
Agathon Rwasa, président du Front National pour la Liberté, à Misero Yabarundi, joint à Bujumbura.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et on poursuit avec la vague d'épidémie de choléra sur le continent où plusieurs pays sont touchés. Les cas les plus répandus sont en République démocratique du Congo, au Zimbabwe et au Niger, où 55 personnes sont mortes sur plusieurs milliers de malades recensés dans la région de Maradi, proche du Nigeria. Alors pourquoi cette recrudescence de la maladie en Afrique? Nani Talani a joint Dominique Legros, chargé du programme choléra à l'OMS Genève.
Il y a beaucoup de cas de choléra parce que depuis des années et des années, on a concentré la réponse sur l'urgence, sur la réponse aux épidémies, sur le traitement des cas. Ce qui est bien sûr très important, c'est même fondamental. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment mettre en place des mesures de prévention du choléra. Et c'est le seul moyen qui permettra d'éviter qu'on ait comme ça, comme vous le dites régulièrement, des épidémies qui reviennent toujours aux mêmes endroits. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'année dernière une stratégie de contrôle qui a été validée par les ministres de la Santé africains le mois dernier au cours du comité régional s'est tenu à Dakar.
Mais en ce qui concerne le Zimbabwe, il est dit que des médicaments manquent pour soigner les personnes atteintes. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait manque de médicaments au Zimbabwe actuellement?
Il faut voir que le cas du Zimbabwe est assez particulier parce que l'épidémie a démarré 5 septembre. Les premiers cas ont été rapportés le 5 septembre. Et là, 8 jours plus tard, on a déjà plus de 2000 cas. Donc ça crée dans ces cas-là un afflux comme ça de patients extrêmement soudain dans les structures de soins qui peuvent expliquer que dans certains cas, on ait des manques de traitement. Mais on est en train d'envoyer des kits de choléra pour pallier à ça. Des partenaires comme MSF en particulier ont établi des centres de traitement spécialisés du choléra. Je pense qu'il va falloir qu'on en fasse encore plus.
Il y a un cas curieux quand même parmi tous les pays touchés actuellement, l'Algérie, puisque ce pays n'a pas connu de choléra depuis 1994. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Algérie aujourd'hui connaisse cette épidémie, d'autant plus que ce pays n'est pas frontalier avec des endroits où l'épidémie fait souvent rage?
Oui, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Algérie et je dois dire que d'un point de vue épidémiologique, c'est effectivement assez surprenant et difficile à comprendre. Il n'y a pas eu, comme vous le dites, d'épidémie de choléra en Algérie depuis plus de 20 ans. Ce qu'on observe dans les pays comme ça, c'est souvent des cas importés. On en a même en Europe ou en Amérique du Nord. Alors parfois, dans certains endroits, on a donc un premier cas importé d'une zone endémique. Un voyage en avion, par exemple. Et puis, parfois, ce cas importé va donner quelques cas secondaires. Ça peut se voir. Mais ce qui nous est rapporté en Algérie, C'est une situation assez différente avec quelque chose qui explose comme ça dans plusieurs zones en même temps. Donc c'est assez difficile à comprendre d'un point de vue épidémiologique et on aimerait bien avoir un peu plus d'informations. On attend en particulier les résultats des investigations, comprendre d'où ça vient, comment ça a pu se propager, est-ce que les souches ont été envoyées à des laboratoires internationaux, etc. etc.
Alors, que fait exactement l'OMS pour aider les pays concernés à endiguer l'épidémie de choléra?
On aide sur tous les aspects de prise en charge des patients. On envoie presque systématiquement ce qu'on appelle des kits choléra qui comprennent l'ensemble du matériel et des traitements nécessaires pour prendre en charge les patients. On aide également sur tout ce qui va être le renforcement de la surveillance et des capacités de diagnostic et de confirmation des cas.
Docteur, pensez-vous vraiment qu'il soit possible de remporter la victoire contre le choléra?
Bien sûr, je n'ai aucun doute là-dessus.
C'était Dominique Legros, chargé du programme choléra à l'OMS Genève. Et au Nigeria, la religion et la tradition constituent toujours un obstacle à la participation des femmes à la vie politique et principalement dans le nord du pays. Alors que les femmes réclament plus de positions sur la scène politique, VOA Afrique est allée à la rencontre des activistes qui militent pour améliorer cette situation. Le reportage de Gilbert Tamba, le correspondant de la VOA Afrique au Nigeria.
S'est lancé dans l'arène de la politique nigériane dominée par les hommes, de surcroît dans le nord-est du pays, conservateur, est toujours une décision difficile pour une femme. La plupart des hommes politiques considèrent que la place de la femme est à la cuisine. Sera Djibril a été la première candidate à une élection présidentielle au Nigeria en 1992 et en 1998 contre Olusegun Obasanjo, qu'elle a perdu, et ensuite contre l'ancien président Goodluck Jonathan en 2011.
The point was that women were being kept.
Mon objectif était de montrer que nous, les femmes, nous sommes bloquées et gardées dans l'ignorance. Et les hommes s'accordent plus de respect eux-mêmes et les utilisent contre les femmes. Ils piétinent ensuite les vertus des femmes et les empêchent de s'impliquer dans la politique. Et je ne suis jusqu'à présent pas satisfaite.
C'est sans surprise qu'elle a été battue par Goodluck Jonathan aux primaires du PDP. Ça, c'était il y a 7 ans. Cependant, pas grand-chose n'a changé pour les femmes comme elle qui se battent pour l'égalité de représentation et de participation dans le domaine politique au Nigeria. Princesse Herman Nobel est activiste des droits des femmes au Nigeria.
Il est vrai que la religion et la croyance culturelle constituent un obstacle à la participation des femmes en politique. Mais cela a aussi évoluer avec le temps, puisqu'au-delà des obstacles de la tradition, de la religion et de la culture, nous avons d'autres choses récentes qui découragent les femmes à s'impliquer dans la politique. Si nous prenons par exemple l'achat des consciences pendant les périodes électorales, les femmes ne peuvent pas mobiliser de tels montants.
5 élections générales ont eu lieu au Nigeria depuis 1999, année qui marqua le retour du pays à la gouvernance démocratique au terme de longues années de dictature militaire. Depuis, seule une poignée de femmes ont occupé des fonctions officielles. Cette situation est d'autant plus étonnante que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et que dans d'autres pays du continent africain, des progrès considérables ont été accomplis dans ces domaines. Les causes de la sous-représentation des femmes dans la politique nigériane sont multiples. Djibril Ibrahim est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
Je pense souvent que les hommes ont peur. Beaucoup de ces femmes-là sont compétentes. Beaucoup d'entre eux ont joué un rôle important dans la vie communautaire. Ils sont bien connus dans leur communauté. Donc, c'est les femmes qui ont le potentiel de gagner. Et c'est pour les bloquer que les hommes qui veulent les concurrencer cherchent de les détruire.
Le Nigeria est un État multiconfessionnel avec une population de près de 200 millions d'habitants aujourd'hui. Le pays est réparti pratiquement à part égale entre chrétiens et musulmans. Des interprétations conservatrices de ces deux religions font qu'à l'heure d'accéder aux coulisses du monde politique au Nigeria, les femmes se heurtent à des obstacles à la fois culturels et religieux. Gilbert Tamba, VOA Afrique, Abuja.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno. Merci à la console Nachwan Kale, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Afrique.